Alors, bienvenue à la planète. Bienvenue, bonsoir, bonjour, bon matin. Où que vous soyez, on est là, nous, toujours à Montréal.
Bonne fin de semaine.
Ben oui, bon Halloween en passant.
Ah oui, parce que là, ça s'étend sur deux jours maintenant.
Ouais, on expliquera ça plus tard à l'émission, pourquoi on a l'Halloween en deux journées, dépendamment de la ville où on habite au Québec en ce moment. C'est une journée venteuse, si on veut parler des choses importantes. C'est une journée venteuse encore.
Avec celle-là. La pluie, ouais. Hier soir surtout.
Ouais.
Ça sent l'automne sur Montréal. Et bien sûr, on a des couleurs d'automne ici qui sont atterries en studio, telles des feuilles mortes. Et voici donc...
Bon, ça y est.
Marie Jobin, bonjour.
Bonjour. Je ne suis pas morte encore.
Non, vous êtes bien vivant, bien jolie. Et puis, Mark Montgomery de la section anglaise se joint à nous. Bonjour, Mark.
Bonjour, bonjour.
Encore une fois, vous n'avez aucune idée du sujet de l'émission. C'est la norme. Et pour essayer de réparer l'affaire, on va vous présenter la vidéo 5 images et nos internautes dans le monde entier peuvent également regarder ces images et voir si vous pouvez déterminer le sujet de l'émission aujourd'hui. C'est très facile, je vous le dis d'avance, donc si vous ne devinez pas, c'est dommage. Voici donc la vidéo numéro 1 à l'émission aujourd'hui. Première image. Je pense que tout le monde la connaît, celle-là.
Oui, c'est Greta Thunberg.
Greta Thunberg.
Oui. Ouais. Bien lancé. Deuxième image.
Vancouver? Non, ça, c'était le bateau qu'elle a utilisé pour traverser l'Atlantique.
Troisième image.
Monsieur Scheer. Ah, ben oui. Les changements climatiques, peut-être?
Peut-être. Je pense que vous êtes... Oui. mais encore.
Ah oui, mais oui, parce qu'on se demandait comment elle allait retourner chez elle.
Ouais,
non, c'est pas vraiment ça.
On va la laisser de côté un peu, mais on va parler surtout de l'objet qui se trouve à la droite. L'effet Greta Thunberg sur la honte de prendre l'avion. Hein, ils appellent ça en Suède, d'où elle vient, le flick-scam. C'est un mouvement qui a pris naissance récemment, à tel point qu'on regarde les chiffres du côté de l'aviation baisse, je pense, de 4,5% ces derniers mois des gens qui se trouvent dans les avions en Suède. Et puis, c'est le train qui a rattrapé l'affaire, qui a été recherché. Ça, c'est passé dans un petit pays tout petit, minuscule comme la Suède, mais au Canada.
Hein?
Comment ça se présente, cette honte de prendre l'avion? Nous, prendre le train, c'est pas évident, faire le bout à l'autre du Canada. Là.
Mais justement, parce qu'il y a beaucoup d'autres pays dans le monde qui ont le train à haute vitesse, tandis qu'ici, au Canada, avec les grandes distances que nous avons entre villes, on n'a toujours pas vraiment un train à haute vitesse.
Oui, et on n'a pas de concentration de population comme c'est le cas en Europe. Traverser les prairies canadiennes, quand vous passez par le Manitoba, la Saskatchewan, il y a beaucoup moins d'habitants que dans des endroits comme en Europe.
Ouais.
Donc, faire un train, ce serait très cher et pas nécessairement économiquement rentable.
Mais vous le savez, le changement climatique, c'est un défi planétaire. Donc, même si les Canadiens disent que c'est pas facile chez nous, c'est pas possible, il y a certainement des affaires qu'on peut entreprendre pour essayer de diminuer à tout le moins la pollution créée par les avions et notre transport grâce à ces avions. C'est ce dont on va discuter aujourd'hui. On va aller de l'option totale boycott à l'option pas de problème. On continue comme c'est. D'accord? C'est l'émission aujourd'hui. On a deux invités qui s'y connaissent dans ce domaine. Mais d'abord, voici le jeu de la grosse boule. Il y en a trois par émission. Le premier jeu, vous perdez seulement 20 boules. Il y a 100 boules à perdre par émission. En général, il y a au moins un d'entre eux qui restait debout à la fin de ce jeu de quilles. On a besoin d'une action. Marie, c'est vous la chef des boules aujourd'hui?
Bon, allez-y. Allons-y.
On y va.
Et voilà, ça
tourne. Il y a deux boutons. Il y a deux boutons à la grosse boule.
Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce qu'il faut faire les deux en même temps?
Il s'agit de bien manier l'affaire, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande.
Ah oui, il faut qu'elle tourne sur elle-même et après, voilà.
Évidemment, vous n'êtes pas habitué du disco des années 70.
Alors, voici la première question.
Je me souviens d'avoir dansé sur cette musique.
Alors, on arrête de danser, on écoute. Voici la question numéro 1. Complétez la phrase suivante. 1 kilomètre en avion pollue plus qu'un kilomètre en auto. 2 fois plus, ça c'est la réponse A. 5 fois plus qu'en auto ou 10 fois plus. Quand on voyage en avion, là, ça pollue combien de fois plus du kilomètre qu'en auto?
Mais moi, je dirais en décollant, ça doit être 10 fois plus. En roulant à haute altitude, 5 fois plus.
Bon, je vous dirais qu'en décollant, c'est 1 000 milliards à l'infini de plus, parce qu'une auto décolle rarement, mais effectivement, oui.
Bon, ça décolle. Quand ça décolle, on va t'arrêter, décolle dans le sens de partir.
D'accord.
Mais ça aussi, ça utilise...
Alors, Marc, vous allez avec B, c'est ça?
Ouais, plutôt. On présume qu'on parle quand l'avion est dans les airs à haute altitude.
Ben, le, oui. Le, ben, du et point A au point B, bon. Total, c'est quoi?
Moi, j'allais avec C.
C, 10 fois plus.
B.
B, 5 fois plus. Vous allez être surpris. Vous avez tous perdu des boules.
Ah!
Voici la bonne réponse.
C'est seulement deux?
Deux fois plus seulement. Ah, bon. Ouais, deux fois plus. Mais ça, moi aussi, ça m'a étonné. Je me suis dit, quand même, c'est rien, ça. Mais c'est quand même beaucoup
c'est
parce
un avion,
que...
Oui, c'est mais un avion problème. À piston ou un avion jet?
Ah, bon, voilà.
Et c'est un avion jet deux moteurs ou 747 avec quatre moteurs?
Eh bien, c'est une chose que vous n'êtes pas responsable des enquêtes, vous. Alors,
c'est le... mais Stéphane, il y a quelque chose d'intéressant. Oui. C'est normalement, lorsqu'on prend l'avion, on fait de plus longues distances. Donc, en fait, on pollue beaucoup plus que si on prend la voiture pour aller faire des courses ou qu'on décide, la même journée, on va faire toutes les mêmes courses dans un endroit circonscrit pour moins polluer.
Ben, ça a beaucoup de sens. Moi, j'avais pas pensé à la distance, voyez-vous. Vraiment, là, vous m'avez eu. Alors, écoutez, je voulais quand même dire que si on devait mettre les choses en perspective, parce que c'est important, ça, sinon on s'y perd. C'est vrai qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Mais si, par exemple, le transport aérien était un pays, il ferait partie des 10 pays les plus pollueurs au monde. D'accord? Ça vous donne une idée de la contribution de l'aviation à la pollution internationale. On va se tourner vers notre premier invité aujourd'hui pour discuter de cette affaire, des moyens pour essayer de resserrer ce problème-là. Elle est d'Équiterre, c'est une organisation québécoise, je le précise pour nos auditeurs à l'étranger. Pour les Québécois, c'est évident, Équiterre, on sait ce que c'est, mais pour le reste de la planète, on ne le sait peut-être pas. C'est une entreprise à but non lucratif qui a pour mission de contribuer à bâtir un avenir plus propre et pour la santé, tout ça, pour tout le monde. Et ils proposent souvent des stratégies d'intervention. Et pour nous en parler aujourd'hui de ce problème de la pollution aérienne, on a Caroline Brouillette, experte en changement climatique. Madame Brouillette, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
En partant, là, vos bureaux sont plus propres que les nôtres, j'imagine, hein? C'est
parce que vous ne voyez pas mon bureau, là. Toutes les choses sont rangées derrière moi, mais devant moi, c'est autre chose.
D'accord. Écoutez, il y a des gens qui laissent flotter l'idée de boycotter carrément l'aviation civile. Mm-hmm. Où se situe Équiterre dans ce dossier-là, dans cette affaire?
Mais pour nous, d'abord, c'est important de rappeler le contexte. On est dans une crise climatique dont on ressent déjà les... en Québec, en Europe, il y a des canicules qu'on n'a jamais vues. Dans le contexte, cet appel au boycott-là, c'est un appel à l'imagination de réfléchir au monde de demain qui sera très différent du monde d'aujourd'hui. C'est sûr que c'est une question qui est sensible quand on parle du voyage en avion. Pour plusieurs personnes, c'est d'aller revoir des voyages. On a des souvenirs, on vit des émotions fortes, mais c'est quand même un appel, comme je disais tout à l'heure, à réfléchir à nos comportements et à, un peu comme quand on fait un budget, à couper dans ce qui est superflu finalement.
Alors, est-ce que vous avez des propositions, là, si on vous dit, transport aérien n'a pas souvent été la cible des accords internationaux au niveau des changements climatiques. Mm-hmm. Si vous aviez à proposer quelque chose, à mettre quelque chose sur la table à une prochaine réunion internationale, ce serait quoi, spécifiquement?
Mais d'abord, vous l'avez dit, le secteur de l'aviation internationale n'est pas couvert par l'accord de Paris parce qu'on ne sait pas où comptabiliser les émissions dans les pays où l'avion décolle ou dans le pays arrive. Cela étant dit, il y a une organisation civile internationale, de l'aviation civile internationale, pardon, qui régule le secteur des voyages internationaux. Puis nous, on a définitivement des propositions de politiques publiques qui vont viser d'abord et avant tout les gens qui voyagent le plus souvent et avec l'impact climatique le plus grand. Donc, il faut penser d'abord aux...
Ils font des voyages d'affaires. Il y a plusieurs compagnies qui réfléchissent déjà à adopter des pratiques de téléconférence, donc de se doter des technologies de téléconférence. Ça permet d'éviter les voyages d'affaires superflus, pardon. Ensuite, les jets privés. Les jets privés par passager kilomètre polluent jusqu'à 50 % plus qu'un siège dans un avion commercial. Donc, il faudrait d'abord concentrer nos énergies là-dessus.
Mais quelle est la proportion, Mme Brouillette, des jets privés dans l'apport du CO2 ou de la pollution par rapport à l'aviation commerciale?
En fait, on ne l'a pas. C'est des données que les voyagistes et les propriétaires de jets privés n'ont pas. Donc, d'abord, le mesurer, ça prend une bonne place pour commencer. Mais la raison pourquoi on focus sur ces personnes-là qui ont un impact climatique plus grand, incluant les voyageurs en première classe, là, je tiens à le préciser, l'impact climatique peut être entre 3,5 à 5 fois 5,5 fois plus grand là, que quelqu'un qui voyage en classe économique. C'est parce que la question climatique, c'est un enjeu de justice et d'inégalité. Les effets des changements climatiques affectent en premier lieu les personnes qui en sont le moins responsables. Par exemple, au Canada, ça serait un peu malvenu d'aller taxer, par exemple, les personnes qui voyagent dans le nord du pays, les communautés autochtones au nord du pays. Donc, il y a vraiment une question d'équité sociale à prendre en compte. Et nous, donc, on aimerait d'abord focusser sur ces voyages qui sont superflus dans la façon de taxer les choses et d'éviter que les communautés marginalisées, qui sont en passant celles qui sont les plus affectées par les changements climatiques, soient taxées. Puis juste une petite donnée intéressante, il y a une étude récente de l'Université d'Oxford qui dit que jusqu'à 50% des voyageurs, donc les voyageurs eux-mêmes disent que 50% de leurs voyages sont superflus et inutiles. Donc, il me semble que c'est une bonne place où commencer là, à couper dans les voyages en avion.
Juste une question. Où sommes-nous dans le développement du carburant renouvelable ou biologique pour les avions?
C'est quelque chose que le secteur de l'aviation regarde de manière proactive. Je dirais, il y a également au Québec un groupe de travail qui essaie de mettre au point le premier avion électrique. Donc, il y a des efforts de l'industrie qui sont faits, qu'il faut saluer. Mais en parallèle, il y a d'autres choses qu'on peut faire en agissant sur les politiques publiques. Par exemple, les vols internationaux sont dispensés de taxes sur les carburants. Ça, c'est une bonne place où commencer, là, parce que ça constitue en fait une subvention aux énergies fossiles. Donc, les carburants là, fossiles devraient être taxés là, au même titre qu'on les taxe pour les vols domestiques.
Mais là, est-ce qu'on n'aurait pas le même problème qu'avec Internet? On taxe où? On taxe au point de départ ou au point d'arrivée? Parce qu'on a les mêmes problèmes avec GAFA, là. On ne peut pas les taxer, c'est très difficile. Et pour l'aviation civile, j'imagine qu'on pourrait faire face au même problème.
Effectivement, je pense que c'est un problème qui est complexe, mais la crise climatique, c'est un problème qui est complexe. Puis je pense que ce qui va être le plus complexe, c'est si on n'agit pas. Faut toujours comparer, je pense, les coûts d'agir avec les coûts de ne pas agir. Puis les coûts de ne pas agir seraient beaucoup plus élevés. Ça demande un leadership politique, ça demande de la coordination internationale, mais on peut et on doit le faire.
Avant le passage de Greta, qui a apporté à notre attention le fait qu'on peut voyager d'un continent à l'autre et même à l'intérieur d'un continent sans utiliser d'avion ou même de véhicule avec qui fait du bruit, là, ils appellent ça, je ne sais pas, le gros moteur, là. Avant cette arrivée, avant cette conscientisation-là, est-ce qu'Équiterre s'est assise avec d'autres organismes au Québec au niveau d'une coordination, d'une conciliation, je ne sais pas? Est-ce que c'est vraiment une priorité ou, bon, c'est quelque chose, un dossier de plus là, qu'il va falloir essayer d'examiner?
Ça fait partie de l'ensemble des dossiers que l'on examine. C'est certain que nous, on a un plan stratégique sur lequel on concentre nos actions. Les émissions du secteur aérien sont importantes. On parle de 2 à 5 % mondialement, puis surtout sont appelées à augmenter. Il y a un groupe qui s'est positionné en marge de la rencontre qu'il y a eu là, cet automne à Montréal de l'Organisation de l'aviation civile qui a fait une demande coordonnée là, aux États membres de taxer justement là, les types de catégories de vols dont je vous parlais tantôt, donc vol en classe affaires, vol en jet privé, tout en portant une attention particulière aux groupes marginalisés. Puis c'est un sujet sur lequel on est de plus en plus interpellés. Je vous dirais, cet été, il y a également eu un mouvement là, en Europe qui s'appelle le « stay on the ground », donc rester sur le sol. Donc des gens qui eux-mêmes se commettent à cesser là, d'utiliser l'avion comme moyen de transport.
Excellent. Ben, merci beaucoup, Caroline, de nous avoir apporté ces informations du front. Parce que on est en guerre contre la pollution, c'est clair et net. Enfin, pas toujours clair et net, mais en tout cas, on y travaille. Merci beaucoup et puis bon succès dans vos projets.
Merci à vous. Bonne journée.
Bonne journée. Alors, c'était Caroline Brouillette, experte en changement climatique à Équiterre, ici même à Montréal. C'est leur siège social qui s'y trouve pour l'ensemble du Québec. Ils ont aussi un bureau à Québec, pour ceux qui s'y intéressent. Écoutez, avant d'aller vers notre autre expert, qui a certainement un son de cloche très différent à nous proposer, nous avons la grosse boule qui va tourner pour une deuxième fois cette émission. Combien de boules à perdre, Maryse?
Je pense que c'est 30 à la deuxième question.
Et vous avez perdu combien de boules au premier jeu?
Tous les deux.
Tous les deux, 20. Donc, on est à 80, si on compte bien.
Oui.
C'est ça?
Vous avez globalement perdu déjà 40
depuis boules. Depuis quand on perd, on n'a pas gagné? Parce que dans le passé, on gagnait des points. Et là, on perd des points.
Ça, on appelle ça le règlement Paloma. C'est Paloma qui est venue ici à l'émission.
Martinez Mendez,
c'est ça? Qui est venue ici en disant, je trouve ça trop simple, votre formule. Si on perdait plutôt des points, ça serait plus drôle. J'ai dit oui, effectivement.
C'est comme la police quand ils t'arrêtent pour une infraction. Tu perds des points, là.
Oui, des points de démérite. Alors, deuxième tour de la grosse boule. Voici, on affiche cette question pour tout le monde, pour le plaisir de tous. Combien de tonnes... Avant, il faut que je vous parle de ça. Il y a eu une compagnie aérienne australienne, Qantas.
Très long vol.
C'était il y a quelques jours, le 20 octobre dernier.
Ils sont partis quoi, de New York?
Ils sont partis de... Attendez voir, de New York, puis ils sont allés jusqu'à Sydney.
Ouais.
Plus long vol dans l'histoire.
19 heures, c'est ça?
Exact, Maryse, une magnifique mémoire. 19 heures et 16 minutes. Les 16 minutes, tant trop. Les passagers se sont dit, franchement, ça ne peut pas être plus court, cette affaire-là. Et c'était dans un de ces 787, donc un de ces avions qui, en principe, consomme moins de carburant. Voici la question. Combien de tonnes de kérosène avait-on chargé à bord de ce vol le plus long au monde? Était-ce A, 41 tonnes, B, 61 tonnes ou C, 101 tonnes? Et je vous aide ici.
Oui, donnez-nous un indice. Combien pèse l'avion?
233 tonnes.
Ben, l'avion?
L'avion.
Chargé.
Chargé.
Moi, j'optais pour C.
101 tonnes de carburant?
Ah, c'est beaucoup, mais il consomme beaucoup.
Ben moi, je vais aller complètement à l'opposé, je vais dire 41.
41 tonnes, parce que c'est un avion très performant, comme on le sait.
Ben, je ne le sais pas, là, mais je me dis qu'à à la moitié du poids, il faudrait se débarrasser des passagers.
On affiche la bonne réponse pour le plaisir de tous et chacun.
J'ai peur.
Oui. Alors, la bonne réponse, c'est C, 101 tonnes. Ouais. Bon, désolé,
c'est Maryse. Lourd.
Oui. C'est pas mal de carburant,
donc, 101 tonnes. Autrement dit, on brûle du carburant pour transporter du carburant, pour transporter des gens.
C'est comme aller sur la Lune. C'est exactement le même principe.
Si jamais vous avez une voiture vide et vous allez chercher l'essence ou un poste d'essence et vous prenez le bidon rempli de liquide, c'est lourd. C'est très lourd. Et là, c'est seulement 20 litres.
Eh oui.
Des bidons sont de 20 litres. Comme plutôt standard, et c'est lourd. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai opté pour ça.
Bon.
20 kilos.
Donc, je suis à 50 et monsieur est toujours à 80.
Il est toujours à 80. Bon. Mais le prochain jeu, il y aura 50 boules en jeu. On va voir ce qui va se passer. On va aller vers notre prochain invité. Il s'agit de M. Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de l'aviation civile à l'Université du Québec à Montréal. Alors, on va aller lui parler. On est sur le point d'établir la communication. Vous avez vu, d'abord, c'était FaceTime pour la première fois à cette émission.
Ah oui?
Et puis maintenant, c'est Skype. Et voici maintenant notre invité. Bonjour, professeur.
Oui, bonjour.
Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes invité ici parce que vous êtes un scientifique. Vous êtes quelqu'un qui vous intéressez beaucoup aux questions de calcul, d'argent, de technologie également. Mettre les deux ensemble, vous pourriez être président d'une compagnie d'aviation, clair et net. Hein?
Vous savez, quand j'étais enfant, mon rêve, c'était d'un jour d'aller travailler dans un aéroport. Alors, donc...
C'est vrai que ça fait rêver. Hein? Moi, j'étais en Afrique, je regardais les avions décoller et atterrir. Puis je ne peux pas aller dedans. Je devais attendre, comme tout le monde, l'arrivée des vacances pour retourner au Canada. Écoutez, vous avez écrit sur ce sujet de l'aviation et vous êtes, je pense, complètement contre les idées de boycottage et ou de honte par rapport à l'utilisation de l'avion. Vous pensez qu'il y a des pistes de solutions qui sont devant nous, clairement?
Le problème, c'est que... on ne doit pas tomber dans une position dichotomique par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai toujours critiqué la position de Greta autour de la question de l'aviation. Son mouvement est parti de boycotter l'avion. Ça n'a pas de sens. Par contre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on soutient l'aviation qu'on n'a pas des préoccupations environnementales, écologiques. J'en ai dans mon quotidien, je l'ai, je pratique. Ce que je dis, c'est qu'il faut être pragmatique. Si aujourd'hui, vous voulez partir de Montréal à Paris ou si vous voulez de Paris à Sydney, l'avion, il se trouve que c'est la façon la plus rapide. Toutefois, aujourd'hui, on est arrivé à une utilisation, une consommation, j'ai envie de dire, de l'aviation qui n'est pas raisonnable. Par exemple, si on fait un trajet de 200 km, 300 km, même jusqu'à 400-500 km, prendre l'avion, ça n'a pas de sens. À ce moment-là, on peut avoir le transport collectif, on peut avoir le train, qui est beaucoup plus, plus intéressant, plus écologique. Alors, donc, il faut essayer de faire la part des choses, de saluer les efforts qu'on fait dans les technologies pour essayer de réduire l'empreinte carbone des avions, mais en même temps associer ça à une autre façon de faire. Par exemple, j'ai vu au Québec, on veut par exemple donner beaucoup de subventions, 250 000 $ par an et 1 million de $ du gouvernement de Québec pour que une compagnie aérienne s'installe à Sherbrooke. Ça n'a pas de sens. Vous voulez faire une distance de 150 km en avion pour venir à Montréal, alors qu'un autobus est largement plus écologique. Par contre, Paris-Montréal, en autobus ou en train, c'est pas possible. Alors donc, c'est un petit peu cette espèce d'idée de soyons responsables, soyons pragmatiques, et essayons de voir comment on peut, combiner le meilleur des deux mondes.
Est-ce qu'il y a des gouvernements ou des administrations de villes qui font des bons choix, plus écologiques avec l'aviation ou dans ce domaine-là?
Tout à fait. Alors, il y a un élément qu'il faut, souligner, c'est que dans les compagnies aériennes, le fait d'être écologique, c'est-à-dire réduire l'empreinte carbone, c'est-à-dire réduire la consommation de kérosène, ce n'est pas par altruisme ou un désir de propager des idées écologiques, c'est tout simplement une question économique. Quand le prix de pétrole augmente d'un sou, par exemple, une compagnie comme Air Canada, c'est 4 à 5 millions de dollars de plus de coûts d'opération. Alors donc, vous comprenez que si à chaque fois, on aimerait aller chercher des avions beaucoup plus écologiques, faire toutes sortes, par exemple, aujourd'hui, ces dernières années, on a fait beaucoup d'efforts au niveau de la manière de décoller, atterrir les avions, ce qu'on appelle les approches, comment on fait par exemple les avions qui roulent sur la piste pour rouler avec un seul moteur plutôt que deux moteurs, tout ça pour réduire la consommation de kérosène. Pour revenir à votre question, oui, il y en a plusieurs. Par exemple, prenons le cas de KLM. Aujourd'hui, si vous voulez partir d'Amsterdam à Bruxelles, au siège de l'Union européenne, et que vous avez un billet de KLM, en fait, vous n'allez pas voyager en avion, vous allez voyager par train. Parce qu'on estime que le train est plus écologiste, est plus économe, et que tout le monde est d'accord pour dire avec les trains, les TGV, les trains à grande vitesse qu'on a notamment en Europe. Donc, c'est plus écologique de faire ça. Donc, il y a des efforts qu'on est en train de faire. Certains pays ont commencé, d'ailleurs, c'est l'objet de discussion donc, au niveau européen, pour voir est-ce qu'on peut, par exemple, taxer les courtes distances en avion. Taxer pour pas que le prix soit attrayant. Si vous avez, par exemple, pour un trajet de Paris-Bordeaux, 500 km, est-ce que le TGV prend à peu près le même temps, étant donné que vous partez de centre-ville vers centre-ville, le temps est approximativement la même chose avec un TGV, est-ce que c'est préférable de prendre l'avion? Donc, on est en train de mettre ce genre de mesures, mais il y a une sensibilité par rapport à ça qui est en train de se développer. Alors, comme toujours, c'est généralement, ça part des pays nordiques, et puis par la suite, un petit peu au niveau européen. Et puis, bon, une fois que le mouvement est très répandu, on commence à en parler en Amérique du Nord. Et bon,
oui.
Je ne sais pas si on va arriver.
Il y a un problème d'infrastructure, clairement, au Canada, comparé à l'Europe. Parce que vous avez là-bas le concept des gares intermodales où le train arrive, c'est pas loin de l'aéroport, on peut connecter même à un autobus, tout est connecté. Ici, à Montréal, au centre-ville, c'est l'autobus. Ensuite, il faut aller 30 km plus loin pour l'aéroport. Et le train, c'est encore un autre 5 km à travers la ville de Montréal. C'est un peu fou, hein, quand même, comme concept d'organisation de ville, ça.
Tout à fait. Et vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on essaie de penser le monde de l'aviation, mais tout simplement le monde du transport, en façon générale, l'avenir en fonction des infrastructures du passé qui datent d'une autre époque. Alors, ça ne marche pas. Dans l'esprit des gens, ça ne marche pas. Regardez, ça fait, je ne sais pas moi, 30 ans, 20 ans, qu'on discute d'un TGV dans le corridor Québec-Windsor. On sait, toutes les études montrent que c'est rentable, toutes les études montrent que c'est écologique, toutes les études montrent que c'est largement mieux que les avions. Mais alors, comment ça se fait qu'on ne va jamais de l'avant avec une idée pareille? Aujourd'hui, on a des technologies. Il y a 30 ans, on disait, bon, ben, le climat ne le permet pas. Aujourd'hui, on se rend compte, par exemple, quand on regarde la Norvège, comment, dans un climat ressemblable, comment l'infrastructure de train est très intéressante. Donc, on reste sur une espèce de, je dirais, immobilisme autour de ça. Est-ce que c'est la force de lobbying de certaines compagnies? Est-ce que c'est une espèce d'immobilisme politique? Est-ce que c'est la suprématie hégémonie de la pensée de voiture? Tout ça fait en sorte que même si on est conscient de ces idées-là, ben, on ne bouge pas finalement.
Venons-en à des solutions techniques, puisque visiblement l'être humain n'a pas de solution, lui. Mais farce à part, je lisais quelque part que la pollution des avions a été réduite de 75%. Je ne sais pas depuis combien d'années, mais j'ai trouvé cette statistique un peu ahurissante quand même. Est-ce que c'est vrai?
Oui, tout à fait, je vous le confirme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par passager, par 100 km, par rapport aux années 70, on a réduit la consommation de kérosène à peu près de 75% sur les avions de nouvelle génération. Si vous avez un avion des années 80 qui vole encore, ce n'est pas valable. Mais dans les avions de nouvelle génération, on a réduit de 75% donc la consommation de kérosène par justement l'architecture de l'avion, par les approches de pilotage différentes, par le fait de remotorisation, par toutes ces choses-là aujourd'hui. Oui, ça, je vous le confirme, c'est vrai.
Mais je vais vous poser la même question que j'ai posée à notre autre invité. On est rendu où dans le développement de carburants biologiques ou renouvelables?
Oui. Alors, il y a deux écoles de pensée sur cette question-là. On a lancé l'idée. Vous savez, la nature, c'est un système. Si vous touchez un élément, c'est rare que ça reste là. Alors, quand on parle de biocarburants, il faut réaliser que, par exemple, le Brésil, qui veut devenir le champion mondial de biocarburants, là, on s'est rendu compte que pour la production de méthane, donc les Brésiliens ont commencé à prendre une quantité phénoménale des terres agricoles qui servaient de produire de la nourriture donc pour les Brésiliens. On les a transformés en terrain pour cultiver donc, finalement quelque chose qui va devenir biocarburant. Si on va vers le biocarburant, dans cet esprit-là, on fait fausse route. Autrement dit, on règle un petit problème, mais on en crée un autre plus grand après. Parce qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, on pointe l'aviation, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ce qui produit la plus grande partie de la pollution à travers le monde, c'est l'agroalimentaire ou tout ce qui est l'agriculture. Alors, s'il faut mobiliser des pourcentages très élevés de notre production de gaz à effet de serre pour produire une plante qui va servir de biocarburant pour l'avion, bien sûr, on n'a pas réglé le problème. Il y a des recherches qui sont en train de faire pour essayer de voir comment on peut développer des biocarburants plus responsables, mais on est encore loin aujourd'hui de penser qu'un avion, par exemple, peut partir de Montréal à Paris à 100% biocarburant, je dirais, responsable et propre.
Oui, mais si un avion consomme moins, il y a plus d'avions dans les airs. Donc, on revient finalement peut-être à polluer autant qu'à l'époque des années 70 ou 80. Il y a beaucoup plus de gens qui prennent l'avion, il y a plus d'avions dans les airs. Donc, même si on a réduit la consommation par avion, on n'a pas réduit la consommation totale.
Vous avez raison. C'est pour ça que l'approche systémique et l'approche globale est important, c'est-à-dire il va falloir réduire par les moyens de technologies de toutes sortes la consommation des avions, mais ça ne doit pas nous donner bonne conscience pour augmenter le nombre de vols ou d'avions. C'est pour ça que je disais, par exemple, aujourd'hui, une partie importante des avions qui volent sont des monocouloirs qui font des distances de 400-500 km. Quand vous partez de Montréal à Toronto, vous faites 530 km. Ce n'est pas un trajet pour un avion. Ce n'est pas logique aujourd'hui. Ce n'est pas justifiable de dire, écoutez, on aura des avions plus propres, donc faisons la promotion pour le trajet Montréal-Toronto plus en avion. C'est de logique-là qu'il va falloir combiner ensemble, oui, des technologies plus propres, mais en même temps, d'utiliser l'avion là où l'avion est plus utile, c'est-à-dire dans les grandes distances.
Professeur Ibrahimi, c'est toujours un plaisir pour moi de vous entendre, même si vous n'êtes pas à mon émission, je vous entends, j'écoute avec plaisir ce que vous avez à dire souvent. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
C'est toujours un plaisir partagé. Merci beaucoup.
Alors, c'était Mehran Ibrahimi, directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de l'aviation civile à l'Université du Québec à Montréal. Bon, moi, j'ai pris ma décision, c'est officiel, j'ai une résolution, même si le nouvel an n'est pas encore arrivé. Je vais cesser de prendre, pour me rendre au travail chaque matin et soir, hélicoptère.
Oui. C'est pas plutôt une voiture électrique?
Oui, je conduis à l'électricité, moi. Et puis, j'ai mes propres panneaux solaires pour alimenter mon auto électrique. Il faut être fou, hein?
Non, mais il soulève un point intéressant avec l'idée de carburant renouvelable par des plantes, etc. Parce que ça, c'est la même situation qui est arrivée aux États-Unis avec la production d'éthanol pour les voitures. Ils ont converti des champs pour produire du maïs pour les voitures, et ça cause toutes sortes d'autres problèmes, exactement comme il l'a dit.
J'ai beaucoup apprécié vos questions aussi, Maryse, de mise en contexte. Là. Vous connaissez ça, le monde de l'aviation, vous avez perdu votre permis, là, mais vous pourriez
non,
encore piloter.
Non, je ne l'ai pas perdu, c'est parce que moi, je pilotais des petits avions, là, ou des planeurs, vous savez, là, des engins qui volent
les Cessna.
Avec des courants. Non, non, mais les planeurs.
Ah, les planeurs.
Oui, les planeurs qui n'ont pas de moteur.
OK. Ah ben c'est bien. T'as déjà dans l'environnement.
On plane sur les ailes et on monte selon les courants ascendants. Et lorsqu'on descend, ben, c'est un atterrissage d'urgence. Okay. Faut pas rater son coup.
Je vois ça, le voyage dans le futur pour les gens qui veulent aller dans les pays chauds, qui viennent du Canada. On sait pas où on se rend, mais on plane. Ça serait bien, hein? Ça serait spectaculaire, au fond, de pas savoir où on va atterrir. On est prêt pour le dernier jeu de la grosse boule.
Et voilà.
50 boules à perdre. Je rappelle qu'il reste 50 boules.
Gagne, alors, jusqu'à maintenant.
Ouais. Pour le moment.
80 boules et puis 50 boules. Voilà ce qu'il y reste. Dans le... Alors, pour ce qui est de cette dernière question, c'est très facile, vous allez voir.
Ah, oh, ça, quand tu dis ça, là, c'est un piège.
Évidemment.
Faut se méfier.
Il est tout content de son petit piège.
Ben, pourquoi pas? Alors, voici, hein, les petits plaisirs du vendredi, c'est moi. Alors,
oui, faire moins bien paraître ses collègues de travail.
C'était pas l'intention, mais plus que vous le dites.
Oh!
Voici.
Ça, c'est une question intéressante.
Sur lequel de ces continents le trafic aérien a-t-il augmenté le moins rapidement en 2016? Est-ce que c'est A, l'Amérique latine? Est-ce que c'est B, l'Amérique du Nord? Est-ce que c'est C, l'Afrique? Ou est-ce que c'est D, le Moyen-Orient? J'ai toutes les statistiques pour vous.
Ça, c'est depuis 2016?
2016. On a pris une photo en 2016. On dit, voici l'état de la situation de l'augmentation du trafic aérien en 2016. Qu'est-ce que ça donne? Là, où ça a moins augmenté rapidement. Ça a augmenté partout, rapidement, mais le moins rapidement, c'était où? En Amérique latine, en Amérique du Nord, en Afrique ou au Moyen-Orient? Qui répond quoi?
Ah, je dirais ah.
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 Ah. C'est bien.
Aucune raison pour dire ça.
Moi, je me suis amusée, alors je vais continuer à m'amuser. Je dirais Amérique du Nord.
Amérique du Nord.
Parce que la croissance en Afrique,
ouais,
d'après moi, est quand même assez importante. Mm-hmm. Amérique latine, je ne sais pas.
D'accord.
Mais je sais pas. Je vais essayer, tiens, Amérique du Nord.
Bon, on va voir qui perd ses 50 boules, puisque l'un d'entre vous perd 50 boules. On regarde ça, la réponse. Ça s'en vient, vous en faites pas. C'est comme... oui. Voilà, Amérique du Nord.
Oh.
Ben oui. Et j'ai même les chiffres pour vous. Notre vidéo numéro 38-28-24-32. Je sais pas si je veux dire ces chiffres-là, moi. Ça vient, ça remonte loin. Je pense qu'on appelle ça... oui, c'est le numéro 5. On va regarder ça en détail. Je pense que c'est très intéressant. Vous allez voir que...
Je pense que c'est une question de croissance de population aussi.
Peut-être. Puis je pense que Marie, vous étiez sur la bonne piste. On a les chiffres, c'est pas clair nécessairement, là, parce que c'est quand même petit, mais 3,5% en Amérique du Nord, c'est la plus faible augmentation en 2016. C'est suivi de l'Afrique avec 5,7%, suivi de l'Amérique latine, 6,5%. Ensuite, il y a l'Asie. C'est un peu normal, on se disait augmentation de population à 8%. Augmentation du trafic, mais c'est en... c'était, je me rappelle plus dans quel continent qu'il y avait une plus grande augmentation, là, mais c'était clair sur la carte pour ceux qui l'ont vu. Ça passe trop rapidement, ces meilleurs moments.
Alors là, vous étiez à 70.
Vous avez gagné, madame.
Oh mon Dieu, j'ai gardé mes 50.
Ben, vous avez gardé toutes vos boules, c'est l'essentiel, on peut.
Je ne glisserai pas sur ce terrain.
Non. Non. On va rouler vers notre image de la semaine. Je réponds seulement par oui ou par non. Et vous devez deviner quelle est l'image cette semaine.
Ah oui, c'est... Si au moins il y avait des petits extraits ou une petite musique qui pourrait nous donner des indices.
Augmentez la musique derrière elle pour qu'elle entende.
Ah, ça ne serait pas l'Halloween, le Halloween Gate.
Ça sonne un peu comme le sonar d'un sous-marin, là.
Le Halloween Gate.
Et Maryse a la bonne réponse. Yeah! Halloween Gate. Alors, sur ces images de notre dernière vidéo aujourd'hui, vous allez nous expliquer ce qui s'est passé ces dernières heures à Montréal. Puis,
Oh oui, ouais. C'est tellement drôle.
Mais on ne montre pas la vidéo, on va la montrer dans quelques instants. Okay. Vidéo. Là, pour le moment, on montre les images qui étaient dans les journaux pour dire aux gens, oubliez la soirée de l'Halloween le 31 octobre. Mais oui,
parce qu'il y a une petite ville à l'extérieur de Montréal-Sainte-Julie qui a décidé que les prévisions météo étaient trop affolantes et épeurantes, qu'il allait venter et pleuvoir et qu'on ne pouvait pas soumettre les enfants à ces terribles conditions. Alors, tout de suite après... Celle qu'on voit à gauche, la mairesse de Montréal, a décidé d'emboîter le pas, ce qui fait que 50 municipalités au Québec ont décidé de reporter l'Halloween au 1er novembre. Sauf que le vent, il est aujourd'hui et non pas hier. Donc, on va voir ce qui se passe.
Ouais, autant on emporte le vent. Puis vous avez une belle vidéo, Marc, à ce sujet-là. Ça a été filmé hier soir.
Hier soir à Mascouche, qui est une ville à l'extérieur de Montréal, un petit peu nord-est de Montréal. Et c'est vraiment l'imagination pour combattre la pluie. Parce qu'il y avait des fortes pluies, là, il faut quand même sortir. Fait que, qu'est-ce qu'ils ont fait?
La pluie était intense, mais les vents n'étaient pas arrivés. Ils sont arrivés la nuit dernière, vers 2 ou 3 heures.
Alors, on se promène avec une petite tente. On appelle ça des abris de tempo ici.
C'est original, ça. C'est tout un parapluie, hein? Mais si le vent s'était mis de la partie, ça aurait pu être
autre. Le vent, c'est pas hier soir.
Oui. Oh, c'est sympathique. Ben, mais félicitations, Marie, d'avoir deviné. Là, j'ai même pas eu le temps de dire non.
Mais non, mais c'était trop facile.
Oui, c'est facile. C'est pour nous rappeler que faut faire attention aux enfants, peu importe le soir où l'Halloween a lieu. Il faut faire très attention, surtout quand les rues sont brillantes, en raison de la pluie.
Le reflet des lumières pour les chauffeurs d'auto, les conducteurs d'auto, là, c'est difficile de voir.
Ouais.
Mais vous savez que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se sont demandé, ben là, s'il neige trop à Noël, est-ce qu'on devrait changer la date de, je sais pas, la fête de Noël ou encore le premier de l'an?
Mais c'est ça.
À un moment donné, ça s'arrête où, ça?
L'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, a aussi fait des tweets qui critiquaient pas mal le maire actuel, Valérie Plante, justement avec cette idée-là. Ah, oh, ils ont cancellé le Noël parce qu'il y avait une tempête de neige.
Ouais. Je pense qu'il y a usurpation de pouvoir, là, qu'une mairesse décide de changer... Une fête comme centenaire, comme ça, je trouve ça spécial. Non, ça pour rire, évidemment, mais je trouve que c'est un pouvoir extraordinaire qu'elle a.
Mais la chose qui est intéressante aussi, c'est que le Canada est grand, n'est-ce pas? Les conditions climatiques varient énormément d'un côté à l'autre. Donc, partout au pays, s'il y a une tempête de neige, qui est dans le cas actuel dans l'ouest du Canada, là, ils sortent. S'il fait chaud ailleurs, ils sortent.
Mais vous savez qu'à Laval, qui est la deuxième plus grande ville au Québec, on a fait l'Halloween quand même.
Ben oui.
Et ça s'est bien passé. Et moi, je suis originaire de Québec, les gens aussi sont sortis.
Quand on était jeunes, on rêvait de faire l'Halloween
ça y est.
Tout le temps.
D'ailleurs, il y a des gens qui disaient, on est tannés d'entendre les gens qui disent, dans mon temps, c'était comme ça.
Ah oui?
Alors là, ça...
dans ma jeunesse!
C'est tout?
Oui, c'est tout. Ben, je ne demanderai pas comment vous vous êtes déguisé hier soir. Bon, non, je sais que c'est trop personnel. Bon, écoutez, tous les copains à travers la planète, merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Marie Jobin, Marc Montgomery, félicitations.
Merci, Stéphane.
Et puis, à la semaine prochaine.
Bye.